Tous les dimanches, 13h-14h sur Europe 1.
Pourquoi docteur ?
Jean-François Lemoine.
Bonjour, la question est simple. Face à un enfant surdoué, doit-on parler de chance ou de calamité ? Il y a une règle, il ne faut pas passer à côté du haut potentiel. Il faut reconnaître la précocité intellectuelle pour anticiper les troubles du comportement et améliorer la qualité de vie de ses enfants et de leurs parents. C'est un surdoué, il s'ennuie à l'école. Combien de fois n'avons-nous pas entendu cette explication facile de la turbulence, de l'échec scolaire et de la désobéissance ? Être surdoué n'est qu'un jugement bienveillant, mais au-delà du phénomène de mode, disposer d'un haut potentiel est en revanche un diagnostic qui signifie que l'enfant doit être surveillé comme le lait sur le feu. Et c'est le thème du dernier ouvrage de notre invité de la semaine, le docteur Olivier Revol, neuropsychiatre de l'enfant, chef de service à Lyon. Il a écrit avec Roberta Poulain, qui est mère de deux enfants à haut potentiel, et Doris Perraudin, une enseignante, 100 idées pour accompagner les enfants à haut potentiel. Qui sont ces enfants surdoués ? N'est-ce pas une tentation de mettre cette étiquette sur un enfant tout simplement insupportable et qui peut faire le diagnostic avec certitude ? Enfin, pourquoi ces enfants sont-ils souvent en échec scolaire ? Et quelle doit être l'attitude des parents et de l'entourage ? Vous voyez, les questions ne manquent pas, mais les réponses arrivent.
Europe 1, pourquoi docteur ?
Jean-François Lemoine.
Bonjour Roberta Poulain.
Bonjour.
Vous êtes présidente de l'AZEP, Association Suisse des Enfants Précoces. Ça veut dire qu'il n'y en a pas en France ?
Si, il y en a tout plein en France, dans tous les pays francophones, dans tous les pays du monde.
C'est pour ça, mais que comme vous êtes avec le docteur Revol qui lui est de Lyon, la proximité de la Suisse était évidente, Olivier Revol.
Exactement, la porte à côté.
Vous travaillez beaucoup avec les associations de patients, vous ?
Alors, de plus en plus, et les médecins en général, on s'appuie beaucoup sur les associations de parents qui deviennent des co-thérapeutes.
Alors, le sort des enfants à haut potentiel est entre les mains de la famille, des enseignants et des médecins. C'est le message de fond de votre livre.
C'est le message de fond de notre livre. C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit ensemble. On ne peut plus travailler chacun dans notre coin, comme c'était le cas jusqu'à maintenant. Alors que là, on partage nos expériences.
Donc on va essayer tout le long de cette émission d'envisager ces trois visions du problème. Haut potentiel, c'est le nom consacré, on ne dit plus des surdoués.
C'est le moins pire, on va dire. On demandera l'avis de Roberta Poulain, mais surdoué, c'était un peu connoté élitiste. Doué, c'est pas mal. Gifted, les Américains. Au potentiel, c'est high ability. On a traduit.
Et Roberta Poulain, dire que tout simplement, les enfants sont précoces, ou c'est la même chose ou pas ?
On parle des mêmes enfants, c'est sûr. Ça fait longtemps que j'ai arrêté de me soucier du mot qu'on va utiliser pour ces enfants-là. On parle bien des mêmes.
Oui, mais le problème, c'est que les gens ont envie de... Si vous imaginez une maladie qui est 7 ou 8 noms différents, on ne saura jamais de quoi on parle. Donc c'est quand même important peut-être de mettre au moins un nom sur un phénomène.
C'est vrai, je crois qu'aujourd'hui, il y a un consensus pour utiliser haut potentiel. Mais on ne satisfera jamais tout le monde. Pour l'instant, il n'y a pas
Bon, alors, vous inquiétez pas, moi j'aurais peut-être tendance par moment à dire surdoué, mais en fin de compte, c'est le haut potentiel, le politiquement correct. Alors, comment on dépiste un haut potentiel, Olivier Revol ?
Alors, on le dépiste, on peut le dépister très tôt, on y reviendra. Si on veut être certain du diagnostic, c'est un test de QI qui confirme le diagnostic. Mais on
alors,
est loin
attendez,
uniquement
ouais,
du test.
On va y aller tranquillement. QI, ça veut dire le quotient intellectuel. Bon, on a tous entendu parler du quotient intellectuel. C'est un quotient intellectuel supérieur à combien qui définit le haut potentiel ?
Ça varie en fonction du temps parce que ça augmente, figurez-vous, dans le temps. Actuellement, on dit 130. Mais on verra que le quotient intellectuel total, c'est pas suffisant et c'est beaucoup plus subtil, un enfant à haut potentiel.
Parce qu'en fait, de toute façon, maintenant, la connaissance étant plus importante, les enfants aujourd'hui ont tellement de choses à leur disposition que leur quotient intellectuel doit augmenter par rapport à la connaissance en règle générale, c'est ça Roberta ?
Certes, c'est pour ça que les tests sont actualisés tous les 10 ans si je ne me trompe pas.
C'est ça.
Donc ce que vous dites devrait être faux, si c'est actualisé tous les 10 ans, pourquoi le coefficient monterait si on les actualise ?
On les actualise parce que le coefficient monte,
oui, mais
d'une manière générale. Ce qu'on appelle l'effet Flynn.
Oui, non, mais ça veut dire qu'on actualise, c'est-à-dire que maintenant on se dit attention, c'est la borne qui change ou on fait plus de difficultés pour que le test soit plus difficile à passer.
Eh bien, on le complique. Actuellement, voilà. On travaille sur le WISC 5.
Donc, ce qui veut dire que le quotient intellectuel pourrait rester le même à travers le
alors,
temps.
Alors, on espère qu'il reste le même.
Bon, ça se fait comment un test de coefficient intellectuel ?
C'est un gros travail, ça prend une heure et demie. C'est une psychologue qui va poser un certain nombre de questions qui vont évaluer à la fois les connaissances, la compréhension verbale, non-verbal, bref, tous les domaines qui servent à apprendre.
Vous dites une heure et demie, on a fait le tour.
Une bonne heure et demie, hein, une heure et demie, deux heures en fonction des cas.
Est-ce qu'un enfant peut sciemment tromper son examinateur, Roberta ?
Sciemment, je suis pas sûre, mais ça va dépendre de son état
psychologique.
S'il est
malin et qu'il a pas envie qu'on l'en...
Ah, s'il a pas envie, c'est sûr que oui, il va pouvoir tromper son interlocuteur.
Ce qui pose la question de la fiabilité de votre test.
S'il est malin, il peut faire l'idiot. S'il est idiot, il peut pas faire le malin. C'est Woody Allen qui disait ça. Hein. C'est plus facile pour quelqu'un d'intelligent de...
Oui, mais on cherche à savoir s'il est intelligent. À la limite, on s'en fout de savoir qu'il a un QI assez bas. On vient plutôt chercher le résultat du QI très haut. Donc effectivement, on peut imaginer que certains enfants n'ont pas, ou qu'ils perçoivent qu'on leur pose un problème en les emmenant faire un QI, ont peut-être pas envie qu'on sache exactement ce qu'ils valent, non ?
Alors, ça c'est rare.
C'est quoi la fiabilité de ce test ?
C'est fiable à condition que la psychologue nous dise il a donné le maximum de ce qu'il pouvait faire.
Pour répondre à votre question...
Si l'enfant inconsciemment, pas consciemment, mais inconsciemment, il est fatigué, il est préoccupé, il est déprimé, il a de la fièvre, le résultat sera moins bon que ce qu'il représente vraiment.
Ouais, on devrait le voir s'il a de la fièvre, sauf un peu se dire un petit peu non.
Prends pas la température à tous les enfants.
Ça veut dire que le médecin n'a rien à voir là-dedans. Donc le verdict est rapide, au bout d'une heure, une heure et demie, tombe un numéro, il n'y a pas une analyse des feuilles.
Si, une analyse, elle doit analyser d'abord son test, donc ça lui prend quand même un certain nombre de temps. Et puis surtout, après, elle va mettre ça en perspective avec comment elle l'a senti, s'il était anxieux, comment c'est passé.
Et donc elle ne donnera pas tout de suite aux parents le chiffre.
Non,
au bout de combien de temps elle le donne ?
En général, il y a une deuxième séance où après avoir traité le test, elle va expliquer aux parents, elle va restituer, ce qu'on appelle ça restituer, mais pas uniquement le résultat global, qui veut rien dire, mais les points forts et les points faibles de l'enfant.
Il suffit de le faire qu'une fois ?
Une fois, on ne peut pas le refaire avant un an parce qu'il y a un apprentissage, mais on peut le refaire au bout d'un an pour voir comment
ça a un intérêt. Ça peut évoluer dans le temps, le QI.
Pour répondre à ce que vous avez dit tout à l'heure, si l'enfant n'était pas dans les meilleures conditions, ça a un intérêt de le refaire au bout d'un an.
Vous avez deux enfants qui ont ce type de, pas dire de problème, mais de particularité qui est d'avoir un haut potentiel, oui. Roberta Poulain. Ils ont combien de QI ?
Je ne vous le dirai pas.
Ah bon ? Pourquoi ? C'est honteux de donner son QI ?
Non, ce n'est pas honteux, mais ça n'a aucun intérêt. Ils l'ont passé il y a très longtemps, c'était une image à un moment donné.
Oui. Mais non, mais alors est-ce qu'il y a une différence ? Alors bon, puisque vous ne voulez pas me donner le QI de vos enfants, ce n'est pas grave. Vous êtes là quand même pour témoigner, mais est-ce qu'un QI de 140, c'est différent d'un QI de 150, d'un QI de 160 ? Quelles sont les bornes de QI ?
On parle d'intelligence précoce, supérieure, au-dessus de 130. Ceci dit...
Mais est-ce qu'il y a une borne supérieure ? Est-ce qu'il y a des gens qui ont 200 ?
Il n'y a pas des gens qui ont 200.
Ça s'arrête à combien ?
On dépasse rarement 160, je ne sais pas exactement, c'est le problème de psychologue ça. Mais si vous voulez, oui, bien sûr qu'il y a des différences, il y a des très hauts potentiels et puis des hauts potentiels standards, mais voilà, il y a différents niveaux.
Mais quand vous êtes, comme toujours en médecine, le problème c'est les borderlines, c'est ceux qui sont entre 128 et 132, non ?
Oui.
Vous faites une limite, boum, 130.
C'est encore plus compliqué que ça, parce qu'il y a des points forts et des points faibles. On peut être à 130 sur certains domaines, le langage, et puis pas sur autre chose.
Ça coûte combien ?
Ah, ça coûte, en fonction des endroits, entre 150 et 250 euros.
En Suisse, c'est pareil ?
Ensuite, c'est beaucoup plus cher. Le niveau de vie est aussi plus élevé. Ouais. Mais pour avoir un bilan complet, parce qu'un test de QI, c'est une chose, mais ça coûte 1000 francs.
Vous avez un QI supérieur à 130. Alors, cette émission vous intéresse.
Europe 1, pourquoi docteur ? Jean-François Lemoine.
Roberta Poulain est présidente de l'ASEP, l'Association Suisse des Enfants Précoces. Olivier Revol est neuropsychiatre de l'enfant, chef de service à Lyon. Ils sont tous les deux auteurs de 100 idées pour accompagner les enfants à haut potentiel. On a vu que le QI était l'élément clé du diagnostic, qu'au-dessus de 130, on peut dire haut potentiel, que ça coûtait de façon bizarre un peu de pourquoi ça coûte beaucoup plus cher dans certains endroits, parce que le psychologue est plus
réputé. Il n'y a pas de normes, il y a une fourchette, mais il n'y a pas de normes.
Mais il n'y a pas de différence. Est-ce que les QI qui sont très chers en Suisse sont meilleurs que les QI qui sont en France ?
Faut demander aux Suisses.
Non, je pense pas.
Qu'on a fait, parce que les médecins qui comparent tout, est-ce que vous avez mis trois psychologues qui donnent des QI, qui ont pris la même enfant et qui ont donné des chiffres ?
On n'a pas fait ça encore. Ça n'a pas de sens, mais.
Bien sûr que ça a un sens, c'est de savoir si la personne qui fait le QI est bonne ou mauvaise.
Et ça, vous demandez.
Pourquoi vous dites
aux associations
que ça... Ah non, mais attendez, ça me surprend qu'avec la suffisance en général du corps médical, vous n'ayez pas encore essayé de savoir si entre trois psychologues, il n'y en avait pas de temps en temps qui faisaient des QI, parce que le verdict est lourd pour un enfant. Si un enfant se retrouve avec un QI de 135 alors qu'en fin de compte un autre va lui donner 115, c'est pas la même chose. Face à un même enfant, est-ce qu'on a fait, on a pris 4 ou 5 psychologues en leur demandant sans se concerter de donner un QI et de voir s'ils donnaient le même chiffre ? Roberta, soyez plus honnête.
Je pense pas qu'on ait fait le test de. Enfin, c'est
ça
pas très fun de faire ça, mais c'est sûr que les associations, elles connaissent les psychologues qui ont l'habitude de faire ce genre de.
Non, mais attendez,
on
s'arrête 30 secondes. D'habitude, on reproche toujours à la médecine de pas vérifier tout ça. Là, quand on vous dit est-ce qu'on peut vérifier si cette histoire de QI est quelque chose de sérieux, vous dites c'est pas fun de faire la vérification. C'est jamais fun les vérifications.
Parce qu'on peut pas le reproduire tout de suite puisqu'il y a un apprentissage. Le deuxième test.
Si c'est un psychologue et si un enfant est face à trois psychologues, il répond aux questions. et on doit pouvoir donner... Non.
Bon, on va faire une recherche là-dessus. Si vous insistez, on va le faire.
Ça vous paraît idiot, c'est pas grave. Dernier point, c'est pas remboursé.
Non, alors c'est pas remboursé.
En Suisse non plus.
Ouais.
Donc c'est un coût quand même. Voilà. Alors attendez, si, il y a quand même, on peut le faire faire par les psychologues scolaires. Donc c'est gratuit, mais elles sont débordées.
Ouais.
Donc le premier temps, on demande toujours à l'école si la psychologue scolaire peut faire le test.
Et on peut pas le faire à tous les enfants systématiquement, ça serait pas possible. C'est clivant de dire d'un côté il y aurait les intelligences, et c'est ça que ça vous coûte.
Il y a un problème de coût et de temps, donc c'est pour ça qu'on le fait pas.
Bon, bah alors bref, je comprends bien, c'est vraiment une démarche des parents d'aller demander un QI à leur gamin, Roberto Poulin.
Oui, c'est une démarche des parents, souvent à la demande des enseignants, des médecins, des psychologues qui suivent l'enfant pour telle ou telle raison et puis ils proposent un test.
Et si les parents n'ont pas d'argent, on ne le fait pas, quoi.
Exactement.
Ouais. On va essayer de comprendre ce que c'est qu'un enfant surdoué. Est-ce qu'il n'y a pas une mode du surdoué ?
Non, il y a une mode de les repérer à temps. Il y a une mode de repérer à temps maintenant les enfants différents. Ça, c'est vraiment quelque chose de nouveau. Alors, parmi les enfants différents... Et en difficulté à l'école, il y a les enfants surdoués. Mais il n'y a pas une mode des enfants surdoués.
D'accord. C'est pas une façon de se rassurer face à un enfant qui a une différence
C'est une des pistes à explorer face à un enfant en difficulté scolaire, sociale ou familiale.
Parce qu'il faut faire le diagnostic différentiel, je pense, avec d'autres maladies bien qui sûr. N'ont rien à voir avec le haut potentiel.
Oui. Avec d'autres profils, comme les enfants hyperactifs, par exemple.
Oui, hyperactifs, on verra. Oui. Mais la limite entre l'arrivée de la psychiatrie, parce que le haut potentiel, c'est pas des enfants malades, faut le répéter à tout le monde. Non. Et pourtant, on va les emmener voir des médecins. Donc, faut qu'on...
Et que la plupart vont bien,
oui.
déjà.
Et il faut rassurer les parents que c'est pas...
Mais à un moment donné, quand un enfant intelligent est en difficulté et qu'on lui reproche peut-être de ne pas arriver à travailler, de ne pas savoir faire, de ne pas avoir de copains, c'est intéressant de pouvoir mettre un profil dessus, une explication.
Il y a un aspect génétique, il y a des familles à haut potentiel.
Ah bah clairement, et parmi toutes les familles, on demandera à Roberta Poulin ce que vous en pensez, mais dans toutes les familles qu'on rencontre, il y en a souvent un, deux ou trois, et les parents qui se reconnaissent à travers leur gamin.
Roberta Poulin, vous avez deux enfants dont on ne saura jamais le QI, mais en fin de compte, est-ce que votre QI était supérieur à la normale ?
Aucune idée, j'ai jamais fait le test.
Oui, et vous avez souffert d'un haut potentiel ou c'est le papa qui souffrait d'un haut potentiel ?
Alors, comme toutes les mamans, je vais dire que c'est à cause du papa.
Oui, bien sûr.
Mais non, on n'en ressent pas le besoin, ni l'un ni l'autre, de passer ce test, donc on ne le fait pas. Mais il y a beaucoup de parents qui, effectivement, suite au dépistage de leur enfant, ressentent le besoin et le font.
Alors, attention à la réponse, parce que la question va être brutale. Est-ce que dans le QI, on avait une différence entre les hommes et les femmes ?
Non.
Alors non, lui, je vous ai remarqué qu'Olivier Revol.
J'ai le droit de réfléchir quand même, François, avant de vous répondre.
Ça me paraît bizarre que vous n'ayez pas réfléchi sur le fait que... j'ai l'impression que ce QI, tout le monde s'en fout et que personne ne l'analyse.
Vous avez raison, le QI n'est plus le point central de l'enfant au potentiel. Les connaît tellement que maintenant on s'intéresse à d'autres choses.
Donc on ne peut pas se dire c'est normal qu'il y ait un haut potentiel puisqu'il s'agit d'une jeune fille ou d'un garçon.
Non, mais je vais répondre quand même à votre question. Il y a autant de filles que de garçons qui sont au potentiel. Mais vous savez que dans notre société, les filles qui ont une différence, elles la masquent. Que ce soit la dyslexie, l'anxiété, le trouble d'attention et le haut potentiel, pendant très longtemps, elles se suradaptent. Et je vais vous expliquer ce qu'on voit quotidiennement. C'est des mamans qui se découvrent à haut potentiel très tardivement, alors que chez les papas, on l'a souvent fait plus tôt parce qu'ils ont embêté un peu tout le monde avec leurs problèmes.
Est-ce que l'influence du milieu environnant est importante ? On a tout souvent parlé des enfants d'enseignants. Est-ce que c'est vrai ?
Plus un enfant est stimulé, c'est comme un sportif de haut niveau. Si vous êtes bon dans une spécialité et qu'on vous entraîne dans cette spécialité, forcément, eh bien, ça va apparaître de façon plus intense.
Ça veut dire qu'on risque de conditionner l'enfant à une réussite forcenée en fonction des envies qu'on a. C'est-à-dire que le QI est quelque chose qui doit être une borne pour expliquer si un enfant réussit ou réussit pas.
On demandera l'avis aussi de Roberta, mais on ne peut pas non plus fabriquer un enfant à haut potentiel.
Non, on ne peut pas fabriquer un enfant au potentiel. Et avant tout, pour la grande, grande majorité des parents, c'est l'épanouissement de l'enfant qui est important. Ce n'est pas tant le QI et de savoir s'il va réussir, mais comment est-ce qu'il va vivre mieux.
Alors, dans un environnement défavorable, comment évolue cet enfant ? C'est ce qu'on va voir.
Pourquoi docteur ? Sur Europe 1. Jean-François Lemoine.
Spécial haut potentiel avec Roberta Poulin, qui est présidente de l'ASEP, Association Suisse des Enfants Précoces, et Olivier Revol, neuropsychiatre de l'enfant et chef de service à Lyon. Avoir un haut potentiel, est-ce que c'est plus grave dans un environnement défavorable que dans un environnement favorable ? Ma question peut paraître idiote, mais est-ce que si on a la chance de pouvoir prendre du temps et de s'occuper de ses enfants, c'est mieux ? Ou alors le fait qu'on s'en occupe moins les rend peut-être moins vulnérables ?
On peut répondre les deux choses, c'est-à-dire que ne pas trop les stimuler, ne pas trop attendre d'enfants qui risquent d'être en échec scolaire à cause de leur haut potentiel, c'est moins confrontant que l'inverse.
Est-ce que c'est pas plus mal par moment de pas le savoir si ça évite la compétition, savoir qu'on a un enfant qui est à haut potentiel
La compétition a rien à voir là-dedans. Je pense que la compétition c'est dans tous les domaines, peu importe si c'est intellectuel, mais... Les parents veulent encore une fois plus l'épanouissement de leur enfant qu'une réussite.
Ça concerne combien d'enfants dans notre pays, en France ?
300 000.
300 000.
1 à 2 par classe.
1 à 2 par classe. C'est à peu près la même proportion par rapport à la population en Suisse. On a à peu près les mêmes chiffres.
Proportionnellement, oui. Oui.
En Europe.
C'est, donc, je veux dire, c'est une vision européenne.
Universelle.
C'est en revanche, dans des pays moins favorisés, est-ce que c'est...
Tendance à dire qu'il y en a autant dans le monde entier.
Bien sûr.
On les repère plus dans les pays où on a l'habitude de les rechercher.
Est-ce que ces enfants sont doués ou à haut potentiel en tout ? C'est-à-dire que, par exemple, autrement, on disait les bons en maths sont mauvais en gymnastique. Est-ce que ça se vérifie ou pas ?
Ça, c'est une super question parce que le haut potentiel,
merci,
et le QI en particulier, Jean-François, il évalue deux formes d'intelligence. C'est l'intelligence langagière, mm-hmm, et l'intelligence logico-mathématique, mm-hmm, de ce dont on sert à l'école. Mm-hmm. Mais en aucun cas, il va évaluer l'intelligence artistique, créative, émotionnelle. Donc, on peut très bien ne pas être à haut potentiel sur un QI, mais être excellent, pour répondre à votre question, dans le sport ou dans l'art. Et pourtant, on est quand même à haut potentiel, mais on a un haut potentiel particulier.
Alors, les hauts potentiels, est-ce qu'on les retrouve toujours dans les réussites exceptionnelles, les Bill Gates, les gens comme ça, est-ce que c'est des hauts...
Moi, j'aurais tendance à dire oui, on demandera l'avis de Roberta, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais...
Roberta ?
Ben oui, je pense qu'effectivement, les gens qui réussissent doivent quand même avoir un minimum d'intelligence.
Et vous savez pourquoi ? Parce que ces gens-là, ils ont une créativité. Et ce qui est quand même le point commun au haut potentiel, c'est cette capacité de créativité qui ne s'évalue pas dans les QI et qu'on ne demande pas trop à l'école. Hein.
Enfin, on connaît tous des exemples de concertistes absolument exceptionnels qui semblent avoir une intelligence très très différente. Ça veut dire que le QI n'apprécie que l'intelligence traditionnelle, mais pas d'autres intelligences.
C'est ça.
Qu'on ne peut pas faire des QI dans d'autres matières, en fait.
Bah, on fait pas des QI, mais on peut...
Sauf que apparemment, le haut potentiel dans ces matières-là ne préoccupe pas, puisqu'il fait pas partie de votre sphère de diagnostic.
En tout cas, ils viennent pas nous voir pour des difficultés à l'école ou des difficultés sociales. Puis ils ont réussi autrement, ils ont trouvé un moyen de se dépasser.
Alors, le surdoué pour vous, le haut potentiel, c'est pour les activités traditionnelles.
Hein. C'est voilà.
Le génie, c'est une dimension particulière du haut potentiel, Roberta Poulin.
Bah, le génie en quoi, déjà ?
Bah, Einstein, par exemple, est-ce qu'on a une idée de ce qu'était son QI ? Est-ce qu'on dit que son cerveau était tout petit, donc enfin, ce serait une légende. Enfin, bon, les spécialistes du cerveau vous disent que le cerveau d'Einstein n'était pas très développé.
Vous savez qu'Einstein a raconté qu'il était à haut potentiel, mais qu'il avait des problèmes de langage. Hein. Il n'était pas bon de partout, puisqu'il aurait parlé à 4 ou 5 ans. Donc, il avait cette forme d'intelligence-là, qui peut-être ne serait pas apparue sur un QI quand il était petit. Hein.
Alors, quand je préparais cette émission, évidemment, il y a plein de gens qui m'ont dit « Ah, tu vas encore t'intéresser à, en fin de compte, c'est des enfants qui sont embêtants, pour rester juste poli, et qu'on veut absolument... parce qu'ils emmerdent tout le monde, si j'ose dire, leur mettre une étiquette. Je sais que c'est provocateur pour vous, Roberta Poulin, mais est-ce que... oui, je sais, mais...
Quand les Suisses disent un peu, ça veut dire beaucoup.
Oui, non, mais justement, vous avez l'occasion de répondre aux gens qui disent souvent, c'est des enfants un peu embêtants, donc on essaie de leur trouver un prétexte.
Non, ceux qui embêtent, c'est ceux qu'on repère le plus vite, donc les garçons, en gros. Maintenant, il y en a un tas, garçons y compris, qui ne sont pas du tout insupportables, qui sont très bien élevés, qui vont bien au niveau scolaire même, mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de soucis, qu'ils
souffrent. Ça veut dire qu'on n'est pas obligé de chercher le problème pour faire le diagnostic de haut potentiel. C'est ça la conclusion de tout ça.
Bien sûr, mais ceux-là, on ne les voit pas, nous, les médecins. Ceux-là, ils réussissent bien, ils ont des copains, ils sont comme il faut, ils sont dans leur vie familiale.
Mais est-ce qu'il y a un intérêt à les...
Non, aucun.
Aucun. Il n'y a aucun intérêt à leur dire qu'ils sont différents, puisqu'ils le gèrent bien, c'est
puisque
ça.
Puisque ça marche. D'accord. Vous êtes sans doute à haut potentiel, Jean-François, ça vous a pas testé.
Alors, je vais vous faire une réponse de Suisse. Je ne vous donnerai pas mon QI.
Eh ben oui,
parce que je ne veux pas vous donner mon QI.
Mon
il y aura
deux
questions que je vous... Non, je vous en veux pas du
mais
tout.
Mais il n'y aurait pas eu d'intérêt à vous tester.
Alors, il y a une chose, c'est qu'on peut se dire qu'on fait une gentille discussion de salon, avec d'un côté d'un QI dont on a vu tout à l'heure certaines limites, des gens qui ont des sensibilités d'autres. Sauf que vous... Vous avez fait quelque chose qui m'a passionné, Olivier Revol. Vous avez mis ces gens-là dans une machine. Et c'est précisément ce qu'on va voir dans un instant. Vous avez mis ces gens au potentiel dans un IRM, ça veut dire un appareil à résonance magnétique.
Je marche tout seul le long de la ligne de chemin de fer. Dans ma tête, y'a pas d'affaire. J'donne des coups de pied dans une petite boîte en fer. Dans ma tête, y'a rien à faire. J'suis mal en campagne et mal en ville. Peut-être un petit peu trop fragile. Allô, maman, bobo.
Allô maman bobo, en 77 c'était Alain Souchon sur Europe 1. Alain Souchon, notez-le, qui sera l'invité d'Isabelle Morizet tout à l'heure à 14h. Il n'y a pas qu'une vie dans la vie.
Europe 1, pourquoi docteur ? Jean-François Lemoine.
On est en train de parler du haut potentiel avec Roberta Poulin, qui est présidente de l'ASEP, l'Association Suisse des Enfants Précoces, et le docteur Olivier Revol, qui est neuropsychiatre de l'enfant, chef de service à Lyon. J'étais en train de faire saliver tout le monde en disant que vous avez la preuve, j'allais dire médicale, intime, biologique, chimique de tout ce qu'on dit, parce que vous avez pris des enfants au potentiel et vous avez mis dans une machine. Et vous avez vu quoi dans cette machine ?
Alors la preuve, attention, on a la preuve qu'il se passe quelque chose.
Ah, ça va plus loin que ça, d'après ce que j'ai lu. Hein.
Oui, oui, on a quand même quelques résultats, certains qui correspondent à ce qu'on attendait, d'autres pas. Alors, je raconte l'historique, c'est une belle rencontre entre moi, entre Dominique Sapé-Marinier, qui est un biophysicien, donc spécialiste de cette machine, et puis Fanny Nussbaum, qui est psychologue. Et on s'est dit, mais pourquoi ces enfants intelligents, il y en a qui réussissent et d'autres qui réussissent pas. Donc on a pris ces enfants-là et on l'a mis dans une machine qui s'appelle effectivement la résonance magnétique. On les a mis dans une machine résonance magnétique.
Ça fait pas mal, hein, parce que je voyais pas, il est en train de mimer un truc. Mais...
ça fait, je mime, mais ça fait pas mal du tout. Ouais. Surtout, ça fait pas mal et surtout, c'est pas dangereux. C'est un examen où il n'y a pas de radiation.
D'accord.
Donc on a mis ces enfants-là et on leur a fait faire des exercices dans la machine et on a regardé comment le cerveau activait certaines régions ou pas.
Alors, un enfant à un potentiel normal, on voit des zones du cerveau qui s'allument, alors que chez les enfants au potentiel, ce sont d'autres zones qui s'allument, c'est ça ?
Et c'est même encore plus subtil que ça, parce que pour l'instant, on a comparé 20 enfants à haut potentiel homogènes, c'est-à-dire que Fanny appelle laminaires, c'est-à-dire qu'ils sont bons de partout, et puis 20 enfants à haut potentiel hétérogènes qui ont des points forts dans leur QI, certains supérieurs à 130 et d'autres pas, inférieurs à 130.
Et on s'est rendu compte, pas mis des normaux aussi pour voir ?
On est en train de passer les normaux, puisque vous tout savoir, on va tout dire. On est en train d'en passer 20 aussi qui ont un déficit d'attention avec hyperactivité.
Ouais.
Donc on va comparer avec les mêmes exercices dans la machine, au moment où ils font l'exercice, c'est un exercice de mémorisation, qu'est-ce qui s'allume, qu'est-ce qu'ils vont activer comme région dans leur cerveau.
Ce qui m'a intéressé dans votre expérience, c'est que parmi les enfants à haut potentiel que vous mettez dans ces machines, il y a ceux qui sont des normaux à haut potentiel, ceux-là n'ont pas de problèmes scolaires et ils allument des régions très précises du cerveau. C'est ceux qui montrent d'autres zones qui fonctionnent, qui, eux, ont des problèmes de difficultés scolaires.
Pour l'instant, ce qu'on peut vous dire, c'est que ceux qui ont un QI hétérogène, c'est-à-dire avec des points forts et des points faibles, qu'on appelle les hauts potentiels complexes, eh bien, ceux-là, avec les mêmes tâches, ils n'activent pas les mêmes régions. Et que surtout ceux qui ont le haut potentiel le plus homogène, ils activent plus de régions, plus vite, et en particulier une région dans le cortex frontal, qui est justement la région de la prise de décision. Ce qui veut dire que ça tord le cou à une autre idée, qui était de se dire, tous les hauts potentiels, en fait, ils ont une pensée intuitive. On se rend compte que les enfants à haut potentiel homogènes, ils sont capables de réfléchir et de faire une déduction.
Ça veut dire qu'un jour, pour faire une émission à Europe 1, on va nous mettre les animateurs dans une machine et on va voir les zones qui s'allument. Hein.
Moi, je vous passerai bien dans une machine.
Mais non, mais bon, je veux bien que vous me passiez dans une machine, c'est parce que c'est pas pour ça que ça me rendra meilleur dans cette station. Mais simplement, on va pouvoir faire une espèce de différence entre les
c'est
gens.
Ça. Et puis, pas pour le plaisir de la science, figurez-vous. On fait ça pour essayer de comprendre comment ces enfants accueillent homogènes et réussissent, et pourquoi les autres réussissent pas, et qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour les enfants à QI haut mais complexe pour les aider à réussir à l'école.
Et Roberta Poulin, elle en pense quoi, là, justement, la maman de voir ses expériences.
En plus, elle a vu les images.
Mais en dehors de ça, en dehors du fait que c'est vous faites c'est des expériences de laboratoire, si j'ose dire. Hein.
Jean-François.
Non, mais c'est des expériences de laboratoire parce que c'est pas encore quelque chose qui
va vite avoir une application.
Ça vous fait peur ou ça vous soulage, Roberta?
Ah non, ça me soulage. C'est sûr que on a tellement de peine en tant que parent de faire comprendre, de faire accepter le fait que notre enfant a une petite ou grande différence avec la majorité des enfants, que là, on a des preuves scientifiques et évidemment que ça nous intéresse et ça nous soulage. Mais j'aimerais quand même ajouter quelque chose par rapport au QI homogène, où on parle de réussite scolaire, comme si ceux qui avaient un QI homogène devaient absolument réussir ou devaient absolument réussir. C'est pas toujours le cas. Ils ont peut-être plus de chances que les autres, effectivement.
Ou ils ont moins de problèmes.
On les voit moins.
Ils peuvent avoir moins de problèmes parce qu'ils n'ont pas de troubles neurologiques qui les empêchent de réussir, vu qu'ils ont un QI homogène, mais ils peuvent avoir d'autres difficultés. Je vous assure que de passer le bac à 16 ans, c'est la mode en ce moment, hein. Tout le monde en parle en fin d'année, c'est toujours pareil. Mais ça ne veut pas dire que leur parcours a été simple. Hein.
On a bien compris, Robert Tempoulin, que votre désir, c'est qu'on fasse le plus tôt possible le diagnostic et qu'on puisse au moins rassurer et aider les parents. On va voir dans le bouquin que vous avez écrit avec Olivier Revol. Mais on parle même des nourrissons, qu'on pourrait faire le diagnostic chez le nourrisson. C'est-à-dire que vous pouvez même imaginer de mettre vos nourrissons dans des machines un de ces jours.
J'ai besoin de la machine pour faire le diagnostic. Je le vois tout de suite, le nourrisson.
Non, mais... vous le voyez tout de suite.
Ah bah oui, je le vois tout de suite. Et les mamans. Ah,
expliquez-moi.
On va demander à une maman. Vous
non,
nous
non,
direz,
non, attendez, attendez. D'abord, expliquez-moi ce que vous voyez, puis on demandera si Roberta a vu la même chose.
Je vais vous dire. On peut voir chez un nourrisson si son cortex cérébral est bien en place. Et vous savez comment ? Il vous fixe dès la naissance. Combien de mamans d'enfants au potentiel me disent « Mais elle est sortie de mon ventre, j'ai encore rien fait, elle me regarde, elle me scanne, j'ai l'impression qu'elle me reproche quelque chose. »
Il y a certains psychiatres de schizophrénie me disent que c'est la même chose avec des petits schizophrènes. Hein,
je crois pas qu'ils regardent leur maman comme ça. Et avec tout ce que ça fait vivre à la maman en disant « Mais est-ce qu'elle me reproche quelque chose ? En plus, elle ressemble à mon beau-père. »
Bon, bref. Roberta, est-ce que vos deux filles vous fixez à la naissance ?
Alors, pour être honnête, je m'en rappelle absolument pas parce que franchement, quand on a un enfant, un bébé, c'est pas ce qu'on regarde en premier. Hein. On va pas se demander tout de suite est-ce qu'il est à haut potentiel ou pas. C'est pas la première question qu'en tant que maman on se pose. Donc probablement avec le recul
mais
après.
C'est quelque chose donc qu'on pourrait aujourd'hui faire un test pour toutes les mamans qui nous écoutent. Bien regardez, vous venez d'accoucher ou on va dire dans la première année ou dans le premier mois, c'est quand?
Normalement, la fixation du regard, il faut l'avoir acquis au deuxième mois.
Et eux,
ils l'ont dès la naissance.
Bon, eh bien écoutez, dès la naissance, regardez.
Mais s'ils l'ont pas, ça veut dire qu'ils sont pas précoces. Hein.
On est d'accord. Okay.
Pourquoi docteur ? Sur Europe 1. Jean-François Lemoine.
C'est Pourquoi Docteur, spécial au potentiel avec Roberta Poulain, présidente de l'AZEP, l'Association Suisse des Enfants Précoces, Olivier Revol, qui est médecin, neuropsychiatre, chef de service à Lyon. Et tous les deux ont écrit avec une enseignante, Doris Perraudin, un livre qui s'appelle « Sans idée pour accompagner les enfants au potentiel ». Je vous le conseille parce que c'est un petit livre très pratique. On n'en a pas beaucoup parlé parce que là on fait connaissance avec le haut potentiel, mais je m'aperçois qu'il va falloir qu'on commence à parler des solutions. Vous voulez donc des gens qui soient le plus rapidement prévenus, un diagnostic fait, et là après quoi ? On s'achète le bouquin ou il y a des gens formés pour s'occuper du haut potentiel ? On va d'abord demander à Roberta Poulain, quand ça vous est arrivé, vous êtes rentré dans ce dossier-là et vous avez fait une association parce que ça a dû être brutal, non ?
D'abord c'est pas moi qui ai fait l'association, mais quand je suis rentré dans l'association, c'était pour comprendre, parce qu'évidemment que je comprenais pas trop ce qui m'arrivait.
Les médecins, personne vous avait expliqué ?
Non, pas du tout.
Et c'était quoi le problème ?
L'anxiété des enfants qui était devenue insupportable, avec des terreurs nocturnes. Vous savez, les parents, ils y vont pas juste pour faire un test de QI, ils y vont parce qu'ils rencontrent une difficulté ou une autre, scolaire ou affective avec l'enfant, et ils se demandent qu'est-ce qui leur arrive. Mais pas avec l'idée même de faire un test de QI. En tout cas, peut-être maintenant plus parce que c'est plus connu, mais pas il y a quelques années.
Ce qui alerte les parents, c'est pas le fait que le gamin là, soit extrêmement brillant dans ses réponses de tous les jours, c'est plutôt l'inverse, c'est que ses copains et ses enseignants s'en plaignent, non ? C'est ça ?
C'est ça. Alors très tôt, d'abord, avant, puisque vous me parlez des bébés, après, les parents aussi sont souvent inquiets, ce que vous en pensez, un enfant difficile.
Oui, mais un enfant de 2 ans, son potentiel, il manifeste comment ?
Il refuse les étiquettes, il aime pas, ça le gratte, il choisit ses habits, il est dans le contrôle et la maîtrise de tout. Vous savez, j'appelais ça
souvent
le syndrome.
Il parle comme un livre.
Il parle comme un livre, mais il a souvent attendu de savoir parler pour parler comme un livre et il passe pas par les bébés. Il passe pas par le quatre pattes, il marche tout de suite d'entrée.
Bah, c'est plutôt des enfants sympas, si vous me faites marrer, vous dites un enfant, il va passer de quatre pattes tout de suite à marcher, on va pas se plaindre.
Sauf que pendant un moment, il marche pas, puis on se demande s'il va marcher. Et puis il choisit ses habits. Et puis surtout, moi, ce qui est très important pour moi, je sais pas ce que vous en pensez, Roberta, mais c'est ces enfants qui ont besoin de tout contrôler, de tout maîtriser. Très tôt. Et les parents, si c'est le premier, ils disent « Mais j'ai pas le mode d'emploi, comment je fais ?»
Est-ce que c'est des enfants qui... Oui, excusez-moi, Roberta, vous vouliez rajouter quelque chose.
Oui, c'est vrai, c'est vraiment ça. Ils veulent tout maîtriser et ils ont de la peine à gérer tout ça. Et nous, en tant que parents aussi, surtout si c'est le premier.
C'est des enfants qu'il faut scolariser, mettre dans un milieu où ils sont entre eux ou il faut surtout les laisser avec les autres ?
Dans la mesure du possible, il faut la laisser avec les autres au sein de l'école publique.
Mais le fait que les autres, apparemment, on n'aime pas trop les enfants au potentiel.
Pas toujours, hein. Il y en a plein qui sont super bien intégrés et tout se passe bien avec les autres. Mais c'est vrai que quand les situations sont compliquées, délicates, que l'enfant est en souffrance, on peut effectivement se poser la question jusqu'à quand est-ce qu'on va le laisser dans un système standard.
On peut parler de souffrance ?
Ah bah ouais, la classe de 5e, terrible. C'est au collège qu'il y a une souffrance. Vous savez, maintenant, il faut être populaire. Il faut être populaire à l'école et si vous n'êtes pas dans les populaires, eh bien vous êtes vite dans les bolosses. Je ne sais pas comment on dit en Suisse, on dit bolosses ? peut-être pas. Hein.
Bon, enfin, en tout cas, bolosses, vous jouez le Jones, mais c'est pas ce qu'on disait quand vous avez fait vos études. Les bolosses, c'est nouveau.
Mais maintenant, c'est nouveau. Mais
il y a des parents qui savent pas ce que c'est. Alors, expliquez-nous ce que c'est que des bolosses.
C'est celui qui n'est pas populaire, c'est celui qui est à part. Et c'est une classe qui est compliquée, c'est la cinquième, honnêtement, et c'est là qu'il faut vraiment réfléchir.
On les met pas dans des usines à champions, on leur fait pas sauter de classe. Vous avez dit le bac à 16 ans qui est très à la mode. Vous êtes contre, vous, Roberta, pourquoi?
Ah non, je suis pas contre. Je suis pour le saut de classe. D'ailleurs, des études qui prouvent que c'est plutôt bénéfique pour ces enfants-là, de manière générale, évidemment. Si c'est bien accompagné, c'est beaucoup mieux pour l'enfant.
Parce que s'ils font son échec scolaire, souvent, on dit que c'est parce qu'ils s'ennuient.
Bah ouais. Ouais. Ils s'ennuient. Et vous savez ce qu'ils font quand ils s'ennuient?
Non, bah, ils
pensent. Oui, vous savez à quoi ils pensent? Non. Bah, ils pensent à la mort, à la maladie, à la planète, à ce qu'ils vont devenir, à la vie après la vie. Et c'est terrible pour eux.
Vous êtes en train de nous préparer des dépressifs, là?
Non, non, des désenchantés, je les appelle.
Ah oui, enfin, penser à la mort, quand on est à l'école, c'est aussi un petit peu de...
Et ils le sont plus dès qu'on accélère. C'est ça qui est intéressant.
Si on a des chiffres sur 100 hauts potentiels, combien vont être en échec scolaire?
On a des chiffres. La moitié à peu près sont en difficulté scolaire. Et puis il y a un vieux chiffre qui traîne, mais qui à mon avis est encore d'actualité, c'est un tiers qui n'arrive pas au lycée. Ça fait peur.
Mais ils font quoi ceux-là?
Eh ben, on va les orienter. Alors moi, je suis très pour l'orientation professionnelle quand on l'a choisie. Mais être orienté et pas pouvoir aller au lycée parce que on nous a pas laissé le temps d'y aller, c'est un peu ennuyeux.
Mais quand on les met ailleurs, est-ce qu'ils se révèlent toujours à avoir des problèmes ou être bon?
C'est souvent difficile parce
qu'ils demandent quoi? Est-ce que les enfants, ils expriment quand vous leur avez expliqué qu'ils sont au potentiel, c'est quoi leur demande? C'est d'être mis à part? C'est qu'on les considère comme normaux? C'est quoi?
Alors oui, c'est certainement qu'on les considère comme normaux, surtout à l'adolescence. Faut être dans le match, comme on dit. Mais ce qu'ils veulent, c'est être épanouis, comme n'importe quel autre enfant, et qu'ils soient. Il n'y a pas de sous-métier. Tant qu'ils trouvent leur équilibre dans leur choix de métier, c'est bien. Mais s'ils trouvent pas leur équilibre et puis qu'il leur manque quelque chose, ça peut devenir très problématique.
On dit que c'est des enfants très intuitifs.
Très intuitif.
Pourquoi on n'utilise pas plus leur intuition pour...
Eh bien, on essaye. Ça sera le but de nos recherches, qu'on appelle la neuroéducation, c'est-à-dire s'appuyer sur comment ils fonctionnent dans leur tête pour essayer de leur trouver des stratégies.
Vous décrivez beaucoup de recherches parce qu'en fin de compte, on ne s'est pas intéressé à eux beaucoup.
Bah non, pour l'instant non, parce que c'était pas la priorité absolue. Ouais. C'était pas la priorité absolue et que maintenant, eh bien, on s'y intéresse un peu plus et un peu plus
et
en profondeur.
Pourquoi? Grâce aux associations.
Oui, beaucoup, beaucoup. Je crois qu'ils nous ont poussés. C'est elles qui nous ont poussés à aller plus loin.
Ils sont meilleurs les Suisses que les Français sur ce sujet-là ou pas?
Non,
pas du tout. Ils sont pas mauvais.
Paraît toujours plus vertueux le voisin.
Eh bien, écoutez, on va voir maintenant ce qu'il faut faire. J'ai compris que c'était un travail d'équipe. On va essayer de comprendre comment.
Europe 1. Pourquoi docteur? Jean-François Lemoine.
Roberta Poulain est présidente de l'ASZEP, l'Association Suisse des Enfants Précoces. Olivier Revol, neuropsychiatre, chef de service à Lyon. Et auteur avec une enseignante qui n'a pas pu venir aujourd'hui, mais qui représente le troisième volet du traitement de 100 idées pour accompagner des enfants à haut potentiel. Alors, on fait quoi quand on a des enfants comme ça? D'abord, qui est-ce qui prend le leadership? C'est la famille, l'enseignant ou le psychiatre, voire même, est-ce qu'on va voir un psychiatre d'ailleurs?
On va voir un psychiatre quand il y en a besoin, quand ça va pas. La majorité d'entre eux n'en ont pas besoin.
Mais c'est qui décide qu'on en a besoin?
Les parents. Les parents, quand ils sentent que l'enfant, je vais vous dire, c'est simple, comme dans le développement de l'enfant, est-ce qu'il y a un moment donné, ça va plus ou à l'école, ou à la maison, ou dans la vie sociale? S'il y a un de ces trois domaines qui pose problème, là, il faut consulter un psychologue ou un psychiatre.
Les psychiatres sont aussi peu aimés en Suisse qu'en France pour aller consulter, parce qu'emmener chez son enfant, c'est un psychiatre en France, c'est pas fun ni être très à la mode.
Non, c'est sûr. Bon, quand ils sont petits, c'est assez facile de les emmener chez un psychiatre ou un psychologue. À l'adolescence, beaucoup moins. C'est beaucoup plus compliqué.
Donc, vous transférez la charge sur la famille?
En tout cas, c'est la famille qui est l'observateur, les observateurs au départ avec l'école. Et puis c'est
eux. Est-ce que c'est pas l'enseignant le plus souvent qui fait?
Si, c'est l'enseignant souvent qui en maternelle commence à alerter. C'est pour ça qu'il y a un travail de formation. Le bouquin d'ailleurs est fait pour ça. De formation pour les enseignants, pour leur apprendre à repérer. C'est un bel observatoire, l'école.
Mm-hmm. Alors vous décrivez des enfants qui sont toujours en train de faire plein de trucs à la fois dans vos descriptions. On donne quoi comme conseil? Qu'est-ce qui commence à intervenir? C'est, alors vous allez me dire, peut-être la famille et l'enseignant en même temps? Mais est-ce qu'il y a des façons différentes d'agir pour les parents? Par exemple, vous conseillez quoi aux parents de ces enfants?
D'abord de les comprendre, donc de s'informer sur le sujet, c'est la première chose à faire. De comprendre pourquoi ils ont telle ou telle réaction. Ensuite, d'essayer de créer un groupe. Il faut ensemble, c'est ensemble qu'on arrive à faire quelque chose. Donc si les enseignants comprennent aussi le sujet, se sont aussi formés de l'autre côté, tant mieux. Si on tombe sur les bons psychologues ou les bons psychiatres, ils connaissent le sujet, mais là on a toutes les chances que ça aille bien.
C'est un chemin de croix que vous êtes en train de décrire, parce que il faut mettre en phase trois métiers qui sont pas forcément en parfaite. On va peut-être commencer par l'enseignant et la maman ou le papa qui se rencontrent. Il faut absolument se voir, aller en parler.
Absolument, je mettrais quand même un bémol. Oui, si l'enseignant est réceptif à ce sujet-là, oui, il faut aller en parler, c'est sûr. Si l'enfant est en souffrance, oui.
Est-ce qu'il faut que ce soit un médiateur type le psychologue ou le psychiatre qui organise ça, parce que ça te paraît très difficile?
Alors souvent, c'est quand même mieux. C'est quand même mieux que quelqu'un de professionnel, du corps médical, accompagne les parents pour expliquer ça. D'abord parce que les parents, ils sont dans l'émotion, donc c'est difficile de parler de ce sujet-là à un enseignant, pour peu qu'il soit pas réceptif. Ça devient très compliqué.
On a quand même de plus en plus d'enfants qui sont seuls à la maison, où les parents sont submergés de boulot. Cela peut arranger le problème, ça?
Non, effectivement.
Et est-ce que ça serait pas plus un boulot des directeurs d'école, d'avoir des gens qui ont une formation spécifique, que de renvoyer ça sur une formation de plus pour des instituteurs qui, eux aussi, ont plein d'enfants différents et des pathologies différentes à gérer?
Oui, sans doute, le chef d'établissement, c'est celui qui va imprimer à l'école l'envie ou pas de s'intéresser à ces enfants différents. Mais vous oubliez, Roberto Poulain, mon adage, parce que ça commence avant l'affaire, c'est de rappeler aux parents qu'ils ont un enfant qui veut tout contrôler, qui veut tout maîtriser, qui n'est pas tout à fait comme les autres, mais qui, comme les autres, est un enfant. Donc le premier conseil à donner aux parents, c'est cet enfant qui parle comme un livre, qui a plein d'idées, qui est créatif, qui est fascinant, il faut lui mettre un cadre et des limites.
Parce que là, c'est avant que l'enseignant rentre en jeu.
Avant
que l'enseignant. Donc là, c'est typiquement...
C'est en amont.
Mais vous comprenez bien que face à ce que vous décrivez, ça ne peut pas être spontané. Alors, je répète, ce bouquin, il est vraiment bien. C'est un petit bouquin qui n'est pas très cher et qui se lit facilement. On peut lire un bouquin comme le vôtre, mais ce que ce n'est pas précisément quand ils sont jeunes que des pédopsychiatres ou des psychologues seraient plus importants que par la suite?
D'abord pour donner des conseils aux parents, parce que c'est là qu'on les rassure. Moi, je pense vraiment que l'anxiété est au cœur du problème et que si les parents mettent un cadre, des limites, ça ira mieux. Ensuite, à l'école, deuxième challenge, c'est d'arriver à l'école.
Roberta n'est pas d'accord.
Si, je suis d'accord. C'est souvent par là que ça commence d'ailleurs. On va d'abord chez le psychologue, parce que vous ne pouvez pas aller vers l'enseignant dire que votre enfant est à haut potentiel, alors que vous n'avez pas de bilan complet. Enfin, c'est ridicule. Ça existe, ces parents-là, mais souvent, ce n'est pas ceux dont les enfants sont vraiment à haut potentiel.
Et c'est souvent mal vu, je suppose. Ce qui fait un peu peur dans votre livre, c'est que c'est 100 idées. C'est beaucoup quand même. C'est-à-dire, c'est aussi complexe que ça, ce qu'il faut apprendre quand on a...
On aurait pu en faire beaucoup plus.
Et 100 idées pour des gamins qui en ont des milliers, c'est pas beaucoup.
Oui, je suis d'accord, mais enfin, c'est une idée, il faut la lire, il faut l'appliquer après. Mais c'est ce qu'on va voir si c'est possible.
Pourquoi docteur ? Sur Europe 1. Jean-François Lemoine.
Figurez-vous que c'est le moment de conclure. Et qu'on a encore pas mal de choses à raconter, donc on va conseiller d'aller lire votre livre. Mais s'il y avait quelques conseils rapides à donner, on commence par vous, Olivier Revoir.
Alors, premier conseil, effectivement, c'est de les comprendre. Et depuis qu'on a identifié que ça existait, depuis qu'on a compris que certains troubles du comportement, on n'a pas parlé des troubles du sommeil, mais ils ont pratiquement tous des troubles d'endormissement depuis tout petit, depuis qu'on a compris que ces enfants qui veulent maîtriser, c'est pas des capricieux, mais c'est des enfants qui sont anxieux et qui luttent contre l'anxiété, contre ça, que ces enfants qui sont en difficulté relationnelle à l'école, c'est peut-être lié au potentiel, on a déjà apporté une explication.
D'accord. On reste dans le pratique, là. Roberta Poulain, des conseils.
Moi, je pense qu'il faut faire attention en tant que parent de ne pas déjà rapporter sa propre histoire avec celle de son enfant. Pas tout miser sur l'enfant si nous-mêmes, on a vécu des difficultés durant notre scolarité. Se rappeler qu'il n'y a pas que l'école dans la vie. Il y a plein d'autres endroits où on peut s'épanouir aussi. Il n'y a pas que les notes qui comptent. Il faut leur laisser, leur faire confiance.
Oui, mais enfin, là, vous venez de vous expliquer que le haut potentiel, il se traduisait surtout par le problème, c'était un échec scolaire. Alors après, lui dire qu'il n'y a pas que les notes qui comptent, effectivement, on est tous d'accord là-dessus, mais on n'est pas en train de résoudre le problème de fond, qui sont des enfants qui se scolarisent mal.
Certes, mais si vous insistez sur les notes à l'adolescence, comme dit le docteur Revol, vous insistez, ils vont résister.
Mais moi, j'essaye de comprendre où on met la mire dans cette histoire-là, parce qu'effectivement, on peut aussi dire, bon, mon petit chéri, l'école, c'est pas important, c'est C'est pas un conseil pratique, c'est plutôt une espèce de philosophie de ce problème.
Mais ce que disait Roberta Poulin, l'école, c'est pas le plus important. Ce qui compte, c'est ton épanouissement. Donc, on n'insiste pas trop là où on sait que tu es en difficulté et que c'est pas un caprice. Ensuite, pour répondre.
Oui, mais vous faites de l'échec scolaire la chose la plus importante de haut potentiel.
Il y en a quand même beaucoup, on a vu un tiers qui
arrive pas au lycée. Donc c'est pour ça que vous dites après, en fin de compte, c'est pas important. C'est ça que je trouve qu'il y a, si vous voulez, il y a une ambiguïté dans votre discours.
Alors, on va essayer de la lever. Je suis désolé.
Vous n'avez pas beaucoup de temps pour
la lever. Je suis désolé si on était ambigu, mais voilà. Tu as un profil affectif, t'es comme ça, t'es plus anxieux, t'as besoin de contrôler, t'aimes pas les choses répétitives, tu n'aimes pas qu'on te donne des ordres. Et bien à partir de ça, nous, parents, enseignants, on va proposer des stratégies. Convaincre plutôt que contraindre, ce qu'on dit souvent. C'est-à-dire qu'on va pas l'obliger à faire des choses sans lui expliquer pourquoi. Mais néanmoins, deuxième stratégie, fermeté bienveillante. C'est-à-dire qu'on est ferme avec toi parce que si l'on n'est pas ferme, s'il n'y a pas de cadre, tu n'es pas rassuré, tu n'iras pas te coucher. S'il y a 3 ans, mes parents ne veulent pas me coucher, qu'est-ce qui va se passer plus tard quand j'aurai besoin d'eux? Bienveillance parce qu'il ne le fait pas exprès. Oui, vous voyez, c'est chaque fois il va falloir
mais
trouver.
Continuez, je vous trouve d'une très grande clarté quand on rentre dans la pratique.
C'est notre mission quotidienne aux parents et à nous. Et on donne tous ces conseils-là, et les parents sont effectivement très suiveurs de ça, parce que une fois encore, ils n'ont pas le mode d'emploi et pour eux, ça les rassure. Donc la fermeté, on la colle à la bienveillance. On les accompagne, on leur explique, on donne du sens. On discute pas à chaud avec les enfants petits, mais on discute après pour leur expliquer pourquoi. Et puis très vite après, on leur donne des stratégies pour avoir des copains.
Est-ce que les enseignants sont capables de faire d'intégrer les intelligences multiples dans leur enseignement?
Ils sont formés pour, tous les cas. Ouais. Je pense qu'ils peuvent. Après, est-ce qu'ils ont les moyens de le faire?
Et le temps de le faire, parce que
le temps de le faire, ça, c'est une autre histoire. Oui, c'est à leur décharge.
Ce que demande Jean-François, c'est le deuxième truc. Le deuxième truc pour les enseignants, c'est de dire, on n'est pas obligé de faire sauter une classe, deux classes, trois classes. Souvent, les enfants veulent pas. Je crois qu'il faut le dire aux auditeurs. S'ils veulent pas sauter, il faut pas qu'ils sautent. Mais approfondissement, enrichissement à l'école.
Et les copains, c'est important.
Fondamental.
Fondamental. Donc, en plus, on rajoute un autre truc qui est le copain.
Mais vous savez ce que je leur dis, moi? Il me dit, je suis tout seul, personne ne s'intéresse. Moi, je m'intéresse à Atlantide, les autres à 8 ans, ils s'intéressent à autre chose. Il y en a un autre dans ta classe, statistiquement. Cherche-le. Ou plutôt, cherche-la. Parce que c'est la fille. Elle a su s'adapter. Ça sera son poisson pilote.
Roberta Poulin, on va conclure. Est-ce que le fait, justement, de vous être intéressé plus à ce problème a eu des résultats positifs pour vos enfants?
Ah oui, ça se compte.
Si vous n'étiez pas intervenu, ça aurait été de...
Je pense que l'aînée n'aurait pas sauté de classe et elle ne m'aurait pas remercié tous les jours pendant 2 ans de lui avoir fait confiance et d'y aller. Parce qu'en tant que parent, on a peur quand ils font un saut de classe.
Une conclusion, Olivier Revol, vous avez 15 secondes.
Ils le disent, il leur faut un mentor. Et tous les grands, parce que maintenant ça fait 30 ans que je les suis, donc ils m'amènent leurs enfants, ils me disent tous, je me rappellerai toujours celui qui m'a tendu la main. Ça peut être un psychologue scolaire, ça peut être un médecin scolaire, une infirmière, un prof, mais il y a quelqu'un qui à un moment donné les a réenchantés.
Vous avez bien compris, on était avec le mentor de la région lyonnaise pour tout ce problème. Moi je vais vous dire, j'ai essayé d'écrire un petite conclusion, dire que ignorer la précocité représente un risque pour l'enfant, l'identifier à temps devient une chance et permet de transformer un obstacle potentiel en tremplin et il n'y a plus de raison d'en faire une maladie. Vous êtes d'accord?
C'est magnifique.
Bien évidemment, il n'y a pas assez de médicaments.
Non. L'empathie.
Ah, l'empathie, De l'empathie, c'est, mes chers amis, ce que j'essaye d'avoir pour vous tous. Et je vous remercie de votre écoute.
Tous les dimanches, 13h-14h sur Europe 1.
Pourquoi docteur?
Jean-François Lemoyne.
On remercie Olivier Revol, qui est neuropsychiatre de l'enfant, chef de service à Lyon, et Roberta Poulin, présidente de l'AZEP, l'Association Suisse des Enfants Précoces. Ils ont écrit un bouquin que je vous conseille, 100 idées pour accompagner les enfants au potentiel. C'est aux éditions Tom Pouce et ça coûte 14,50 €. Voilà, je vous aurai tout dit. Pour nous écrire, 26 bis rue François 1er dans le 8e arrondissement à Paris, pour écouter cette émission ou celle que vous aurez ratée, le site europe1.fr. On remercie Alexandra Dumont, notre assistante, notre ingénieur du son, Jérémy Luleux, que je salue toujours avec beaucoup de plaisir, et Corinne Reich, notre réalisatrice. On se retrouve dimanche prochain. En attendant, portez-vous bien.
Merci beaucoup Jean-François Lemoyne et à la semaine prochaine. Restez avec nous sur Europe 1. Isabelle Morizet arrive avec son invité. Il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Une heure de confession aujourd'hui avec Alain Souchon.